amis chrétiens, à cette première semaine de prière sous la ligne de la filiale de la France, Prière sans frontières, la voix de la vérité. Vous entendrez parler de Jésus, son amour, son appel, sa réponse. Frères et sœurs, faites confiance à Jésus qui libère. Invitez tous. Ce peut-être que vous rencontrerez pour la première fois ou habitué à côtoyer. Un seul numéro à retenir, le 01 70 06 01 38, en composant le code d'accès, le 83 55 38 hashtag, afin de découvrir Jésus tel qu'il est vraiment. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, Jésus, ton Fils, notre Sauveur, omniprésent, omnipotent et omniscient. Dans ta bonté, tu nous pardonnes de tout péché. Nous n'avons aucun mérite devant ta face. Nous avons été sauvés par grâce. Permets-nous de nous rapprocher de toi. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus qui donna sa vie sur l'infâme bois pour chacun de nous. Aussi, durant cette semaine de prière, nous te demandons ton Saint-Esprit et qu'il ravive en nous le désir de te choisir comme notre seul et unique modèle. Nous te réclamons. Fais-nous grandir afin que nous apprenions à te connaître et te contempler vraiment. Accorde à tes serviteurs le courage de démontrer cette semaine, bibliquement, à nous tous comment tu ne cesses de faire luire ta face sur nous par amour. À tous ceux et celles qui veulent obéir en toute humilité à tes ordonnances, bénis-les. Que les coordinateurs et collaborateurs de cette ligne soient en paix et sous ta divine présence, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, sublime de l'éternel, par crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable. Le divin sauveur t'a fait descendre en moi. Blasphémateur indigné, misérable, à ton seul nom je frissonne des fois. Amour sublime de l'éternel, pardon du crime. Grand message du ciel. Jean 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Matthieu 24, les versets 18 et 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » L'amour de Jésus nous appelle. Ne résistons pas, répondons. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Nous appelle, vous et moi. Patiemment, Jésus attend le rebelle. Il nous attend, vous et moi. Venez, venez à moi. Travaillez, chargez, venez à moi. Doucement. tendrement Jésus appelle. Oh, venez, venez à moi. Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui, c'est le ciel qui passer au chantem, que vous entendrez pendant les quelques jours de prière. Répondons à l'appel de Jésus, mon divin maître. Avec lui, je suis sorti du pays du malheur. Délivré par son pouvoir, je ne veux plus connaître que la grâce et l'amour de mon sauveur. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici, le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je voudrais si ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Bien au loin, j'entends l'écho des bruits de la terre, l'écho triste et douloureux d'un monde révolté. Mais désormais, mon seul lien, c'est la croix du calvaire. C'est Jésus, sa gloire, sa vérité. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici, le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je voudrais si ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Par la ruse et les menaces voulant ma défaite, Satan lance contre moi ses flèches enflammées. Mais Dieu m'offre sa parole, une sûre retraite, et pour capitaine, le bien-aimé. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici, le bon abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je voudrais si ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. L'ennemi peut donc venir, je ne crains pas sa rage. Seul, je ne puis rien, mais mon sauveur est tout puissant. Soutenu par son esprit, je lutte avec courage. Et mon chant s'élève, reconnaissant. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici, le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je voudrais si ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Ici, je contemple ému la création sublime. Et j'adore à deux genoux Jésus jour après jour. Mais le voir son monter de la plaine et de la cime. Un chant de louange, un chant d'amour. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je voudrais c'est ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Amen. Chers frères, chères sœurs, il n'y aura pas de questions durant cette semaine de prière. Autour du thème « Jésus, son amour, son appel, sa réponse », nous aborderons ce soir comme sujet « Qui est Jésus pour toi ?» Qui est Jésus pour toi ? Philippiens 2, 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, amis chrétiens, vous êtes sans doute nombreux à nous écouter. Puisse la douce influence du Saint-Esprit nous enseigner et nous diriger. L'orateur, notre frère bien-aimé Christophe Michel, serviteur engagé pour Christ, est notre invité. Vous avez certainement eu l'occasion de l'écouter sur cette ligne, mais également lors de conférences bibliques. Nous l'accueillons et tenons à lui souhaiter une chaleureuse bienvenue.
Frère Christophe, étoile 2. Frère Christophe est déjà présent, donc il serait mieux de faire étoile 7, frère Christophe. Ça nous aiderait. Étoile 7.
Allô?
Voilà.
Allô, allô? Vous m'entendez?
Oui, ça va. Oui, oui, ça va.
Ah, là, vous m'entendez?
Oui, ça va.
Bon, très bien. Chers amis, chers chrétiens, chers frères et sœurs, merci à Marlène pour cette introduction. Merci de m'avoir invité de nouveau sur votre ligne pour une semaine spéciale, je l'ai bien compris, une semaine de prière. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que de nous mettre en relation les uns avec les autres pour étudier personnellement la parole ou collectivement en groupe, que ce soit à l'église, dans des groupes, chez soi et évidemment au téléphone, évidemment. Je ferai une courte prière, si vous le permettez, pour que le Saint-Esprit nous anime tous, en tout cas pour ce mardi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois de plus de cette opportunité de sonder ta parole. Et nous te demandons l'assistance puissante de ton Saint-Esprit pour dégager tout ce qui pourrait faire obstacle à une saine et juste compréhension de ta parole, pour que celle-ci puisse nous aider à traverser une vie compliquée, difficile, pour beaucoup, pour la majorité d'entre nous. Mais au-delà de cela, que ton Saint-Esprit nous aide vraiment à être fortifiés, enracinés, fondés dans le Verbe, dans la parole que tu es. Garde-nous, Seigneur, pour ces minutes à suivre. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Chers amis, bon, l'actualité est dense, hein, vous l'avez remarqué, que ce soit du côté de l'Atlantique, aux États-Unis, avec cette élection, et de notre côté, nous ici en France, avec une élection à venir, en tout cas pour l'année prochaine, mais ce que l'on appelle des primaires, hein, pour les différents partis. Au loin de moi ce soir, l'intention de vous parler de politique, j'en ai fait plus jeune, j'en ai fait adolescent, et ça ne m'a pas donné grand-chose. Mais je veux quand même que nous soyons bien concentrés sur l'essentiel pour nous, chrétiens, pour nous, adventistes du septième jour. Et j'espère que auprès de ceux qui sont chrétiens et qui ne sont pas adventistes ou qui sont d'une autre dénomination, me faire bien comprendre ce soir avec tout l'amour, j'espère que l'Éternel me mettra dans la bouche. Parce que nous vivons des temps, encore une fois, difficiles et ce qui arrive est différemment interprété. Si je devais ne m'attarder que sur les réseaux sociaux ou sur mon téléphone, eh bien cette élection de Donald Trump fait effectivement beaucoup, on va dire, couler d'encre. Et pas que de l'encre, hein. Beaucoup tapent sur leur texto, sur leur téléphone, ils envoient des vidéos, ils envoient des images, ce sont des conjectures sur ce que va faire cet homme, sur ce que nous savons, ce que la Bible nous dit. Voilà, il y a un emballement. Il y a un emballement médiatique, on l'a vu il y a 8 jours pour cette élection, mais il y a un emballement aussi de certains chrétiens qui font de la prospective, qui s'agitent, qui regardent, qui auscultent, qui observent et qui font feu de tout bois. Quelles que soient d'ailleurs les élections, mais plus celle-là, puisque c'est un grand pays, les États-Unis, et qui ont une destinée prophétique. Je voudrais quand même néanmoins que nous redevenions non pas sérieux, parce que c'est une chose sérieuse, mais que nous nous concentrions sur l'essentiel. Vous savez que parmi les signes avant-coureurs du retour de Christ, eh bien, ces signes avant-coureurs sont relatés dans l'Écriture. Il y a une multiplication de faux docteurs. Et par conséquent, s'il y a des faux docteurs, il y a des fausses doctrines. Et il ne faut pas laisser... il faut laisser l'ennemi faire le spectacle, si vous permettez cette expression, en se servant, lui, de l'actualité, et ne pas tomber dans cette frénésie télévisuelle, radiophonique concernant l'actualité. Ces faux docteurs, ces fausses doctrines, on les a dans la Bible. Matthieu 24 nous dit, de faux Christ et de faux prophètes vont s'élever. Hein. Ils feront de grands signes et de grands prodiges jusqu'à séduire, s'il était possible, même les élus. Moi, si je prends ce texte et je connais la Bible, je peux les détecter. Avec du discernement, je peux détecter les faux Christ et les faux prophètes, puisque la norme, c'est la Bible et je peux comparer. Mais ce texte de Matthieu nous parle de séduction. N'y aurait-il pas chez certains une douce séduction à être attiré par effectivement tout ce show mondial, tout ce show politico-religieux et à scruter, sonder les moindres pas des uns et des autres? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de séduction, en tout cas d'être attiré par ça? Et évidemment, tout de suite après, de vouloir partager ça avec tout son réseau, tous ses contacts. La séduction, elle peut se trouver également dans l'actualité. Or, l'Esprit dit expressément que dans les temps à venir, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher, tiens, à des esprits séducteurs. On retrouve le mot, il y a des doctrines de démons étant égarés par l'hypocrisie de ces faux docteurs qui avaient la conscience cautérisée. C'est dans 1 Timothée 4. Et puis un autre texte de 2 Timothée, car il viendra un temps où, et vous connaissez la suite. L'Écriture, au fond, va plus loin. La parole de Dieu ne se contente pas de prédire cette apparition de faux docteurs. Mais la parole montre à quel point leurs doctrines erronées vont être séduisantes. Et avec, encore une fois, quelle ruse le diable saura envoyer ses différents émissaires. Paul nous dit, comme pour nous alerter, nous mettre en garde, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, ayant porté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par le ruse. C'est un texte dans Éphésiens. Vous avez d'autres textes qui nous préviennent, effectivement. Mais il y a d'autres présages. Pardonnez-moi, il y a d'autres présages qui se rapportent au même sujet. Donc, de faux docteurs, en résumé, avec de fausses théories, très séduisante, des prodiges, des miracles, ce sera donc du sérieux. Ce sera donc du sérieux. Est-ce que nous ne vivons pas à cette époque? Et je me pose la question, si la fausse doctrine ressemble tellement finalement à la vraie, ou alors du moins si l'erreur est prêchée avec une telle apparence de vérité, comment on va finir par distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de notre ennemi commun? Comment? Alors la Bible ne nous laisse pas sans réponse, nous la trouvons dans 1 Jean 4, versets 1 à 3, je vous laisse peut-être prendre le temps de cette référence, 1 Jean 4, 1 à 3, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Car plusieurs faux prophètes, nous retrouvons, cette fois-ci sous la plume de Jean, les faux prophètes, ils viennent dans le monde, ils sont venus dans le monde, et le texte poursuit, « Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. » Alors à quoi? Tout esprit qui confesse Christ venu en chair est de Dieu. Ah, bon, alors là, du coup, on se retrouve rassuré. Oui, parce que nous, chrétiens, adventistes, nous confessons que Christ est venu en chair. Oui, donc, je m'y retrouve, et le texte poursuit, mais tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu, que Dieu est venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, la pierre de touche, n'est-ce pas? De tout d'ailleurs, de tout le christianisme et de toute la Bible, c'est finalement que tout esprit qui procède de Dieu doit confesser Jésus-Christ venu en chair. Ça, on l'a compris en lisant le texte biblique de 1 Jean 4. Mais qu'est-ce que ça veut dire venu en chair? Au fond, le Jésus-Christ que nous louons, que nous adorons, que vous aimez probablement, il est qui pour vous? Quelle conception vous faites à partir de la Bible de Jésus-Christ? Le texte est clair, celui qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, c'est bon. Mais à contrario, celui qui confesse que Christ n'est pas venu en chair est de l'antéchrist. Très bien, mais alors dans quelle chair? Dans quelle chair? Alors, on a un texte qui a été lu d'ailleurs, Philippiens 2, 5, 8. Très beau texte, magnifique texte. Jésus-Christ existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Moi, je me suis toujours arrêté sur ça parce que c'est terrible. C'est-à-dire que nous avons d'éternité en éternité Dieu, le Père, le Saint-Esprit. Et ce texte nous dit que quand la décision fut prise d'envoyer Jésus-Christ sur cette terre incarné dans une chair humaine, et nous verrons tout à l'heure dans quelle chair, Jésus-Christ aurait pu se dire « mais je suis Dieu ». Et il a fait fi de cela. Et il est descendu volontairement. Le texte nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal de Dieu, d'être égal de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il avait à faire sur cette terre pour vous et moi était supérieur au fond à sa position dans le ciel. Et le texte poursuit en disant, en prenant une forme de serviteur, et si vous regardez dans différentes versions, notamment dans la version d'Arby, ça va beaucoup plus loin que serviteur. Il est écrit une forme d'esclave, la version d'Arby, d'esclave, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Au fond, Paul avec Philippiens, c'est un beau résumé, n'est-ce pas, de l'Évangile. Bien sûr qu'il faut creuser cela. Mais quel résumé ? Nous partons du ciel et nous arrivons à la croix. Voilà. Voilà ce Jésus-Christ qui se présente à vous ce soir, ou qui s'est présenté à vous par le passé. Vous retiendrez qu'il n'a pas voulu être l'égal de son Père. Il s'est en quelque sorte désisté pour venir volontairement, désister, prenez-le avec des guillemets, pour venir, pour vous et moi, pour venir dans cette humanité, nous apprenons qu'il s'est humilié et qu'il est venu comme un esclave. Oui, Jésus-Christ l'esclave. Ceux qui m'écoutent ont peut-être eu des arrière-arrière-arrière-grands-parents issus de l'esclavage, puisque je sais que nous sommes écoutés aux Antilles, aux États-Unis, et il y avait ce triangle de l'esclavage, Afrique, Europe, Amérique centrale, États-Unis, et ça doit parler à certaines personnes dont les grands-parents ou un grand-parent étaient esclaves, l'esclavagisme, les lois sur l'esclavage de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et bien avec cette guerre de sécession. Esclave, c'est un mot qui est lourd de sens pour certains, n'est-ce pas? Il est apparu comme un simple homme. Ô Jésus-Christ est la parole. Et cette parole était au commencement avec Dieu, vous le savez, cette parole était Dieu, c'est Jean 1. Et nous savons que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le Fils de Dieu, il n'a pas voulu se prévaloir de sa position extrêmement élevée, et ni considérer cette position extrêmement élevée comme une situation à garder pour lui. Quand je parle de l'amour agapé avec d'autres frères et sœurs qui nous connaissent ici en France, à Paris et peut-être ailleurs, c'est un mot qui est lourd de sens et je ne veux pas, quand je le prononce, le galvauder. Parce que cet amour agapé, en voilà la manifestation. Si vous voulez une démonstration de l'agapé, si vous voulez un traité sur l'agapé, c'est pas la peine de sortir beaucoup de livres pour regarder une croix. C'est ça la démonstration de l'agapé. Encore une fois, il ne s'est pas prévalu de sa position. Il n'a même pas considéré cette position comme quelque chose à garder pour lui. C'est une leçon pour nous, chers amis, chers auditeurs, quand nous possédons quelque chose et que nous attribuons à cette chose beaucoup de conséquences, je m'exprime mal, nous ne voulons pas partager cette chose. Jésus-Christ n'a jamais été dans cet état d'esprit. Le texte de Philippiens va encore plus loin. Il s'est anéanti. C'est un mot qui est très très fort. Est-ce que je suis avec vous sur ce Jésus-Christ de la Bible? Est-ce que c'est ce Jésus-Christ que vous louez, que vous adorez, que vous priez? Ce Jésus-Christ esclave, esclave? Ce Jésus-Christ qui s'est anéanti et qu'il s'est incarné dans une chair humaine? incarnos en chair. Mais quelle chair? Nous allons le voir. Et nous savons que Jean nous dit dans 1 Jean 14 que cette parole, ce logos, eh bien, a habité, tabernaclé, à l'origine, parmi nous. Moi, je suis sidéré de voir jusqu'où Christ est allé, au fond, pour l'humanité, pour vous et moi. Parce que c'est que nous devions avoir beaucoup de prix tout de même, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un tel sacrifice, un tel don. Et c'est là-dessus que moi j'ai besoin de me concentrer. Je n'ai pas besoin de me concentrer sur les conséquences d'une élection. Je n'ai pas besoin de me concentrer sur les conséquences de tel mouvement économique, de tel mouvement climatique. La Bible me dit ce qui va se passer. Elle ne me dit pas d'adorer toutes ces choses, elle me dit de me concentrer sur quelqu'un qui est devenu esclave, sur quelqu'un qui s'est anéanti et qui est paru comme un simple homme. Mais c'est l'essentiel et c'est le plus important pour faire grandir une foi, pour faire grandir un foyer, pour faire grandir une église, pour faire grandir un peuple qui est appelé le peuple du reste dans la Bible. Il existe aussi un texte d'une importance capitale, un autre texte, un Romains 8, 3, Dieu a condamné le péché dans la chair, encore une fois, mais quelle chair? Afin que nous marchions non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Un autre texte, Hébreux 2, 17, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Oui, ses frères, nous sommes ses frères, vous le savez. Jésus avait des frères biologiques, mais il avait aussi des frères spirituels. Et le texte nous dit qu'il a participé au sang et à la chair. Un autre texte, Hébreux 2, 14, il participe au sang et à la chair. Il n'est pas juste venu sur une terre 33 ans et demi, dont 3 ans et demi de ministère, simplement pour parader, faire semblant de participer à la race humaine en faisant des miracles, en faisant des résurrections. Oui, je compatis à cette race humaine, je suis là pour elle, je veux l'aider. Non, il participe aux douleurs de la race humaine déchue, puisque nous sommes évidemment après le péché. Oui, Hébreux est très clair, hein, Paul n'a jamais fait douter de ses propres convictions, et le texte dit pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le texte poursuit, en Hébreux 2, 18, il a été tenté lui-même, donc il peut secourir ceux qui sont tentés. Chers amis, voilà, à l'heure où je vous parle, l'enseignement biblique concernant l'incarnation. En 2, 3, 4 versets, vous avez suffisamment de textes pour parler de cette incarnation. Et je répète, il s'est anéanti, une chair semblable à celle du péché, il participe à la chair et au sang, et j'apprends qu'il est tenté comme moi. Mais jusqu'à quel point il est tenté comme moi? Parce que les tentations d'aujourd'hui sont-elles celles de l'époque de Jésus? Voilà la prière. Voilà cette pierre de touche du christianisme authentique. Oui, parce qu'il y a peut-être deux christianismes, deux Bibles, deux évangiles, sûrement, mais peut-être aussi deux Christ. Bon, la Bible n'en reconnaît qu'un, mais l'homme s'est construit, à partir même des textes bibliques, un autre Christ. Un Christ fils de Dieu, qui réunit tout le monde, mais un Christ différent de moi. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de lire. J'ai lu pourtant qu'il s'anéantit, il me correspond, il est semblable à moi. Mais c'est peut-être trop pour certains, et ils se sont donc du coup construit un Christ différent du Christ de la Bible. Je vous pose la question ce soir, qui est Jésus pour vous? Avez-vous fait le point sur votre christianisme? Dans un texte qui s'appelle Jésus-Christ, une dame, une chrétienne profonde, a écrit ce passage à propos de Jésus-Christ, ce très très beau passage, je vais essayer de vous retrouver cela. Quand il s'est agi de racheter ce monde et de le sauver et d'élever l'homme jusqu'à Dieu, alors le Verbe s'est fait chair. Ce qui ne signifie pas seulement, qu'il a revêtu, sous-entendu Christ, un corps humain, mais qu'il est devenu vraiment humain et s'est soumis à toutes les conditions de notre existence. Quand le Verbe est devenu chair, il s'est anéanti, on vient de le voir, il s'est dépouillé de sa gloire, plus de gloire, terminé la gloire. Étant riche, il s'est fait pauvre, il est devenu comme l'un de nous, sauf le mal, pour traverser cette lutte morale avec tous les risques de la liberté. C'est un fils de Dieu volontairement abaissé, hein, abaissé. Et cet abaissement est le commencement comme la condition de son sacrifice. J'aime bien cette phrase qui dit que la rédemption de l'humanité ne pouvait se faire que par un Dieu devenu homme. C'est dans une chair semblable à la nôtre que Christ a traversé les luttes morales. Et j'en déduis donc de ce passage que je vous ai lu qu'il a, couru les mêmes risques que nous pour prouver que la justice prescrite par la loi de Dieu pouvait être accomplie par l'homme. L'obéissance de Christ n'était donc pas illusoire, et ce que nous dit de cette obéissance la Bible n'était pas illusoire. Et son exemple, eh bien écoutez, c'est une application pratique pour vous et moi, qui sommes des pécheurs, nous le savons, mais rajoutons tout de suite après repentant, qui luttons pour remporter cette victoire sur cette condition humaine. Romains 8, 3, la condition sur le péché. Bien entendu, je ne pourrai jamais changer ma nature. Mais en tout cas, mon état d'esprit, oui, Dieu peut le changer, bien entendu. Jésus-Christ, parfaitement juste, parfaitement soumis à la loi de son Père, bien entendu, a prouvé que sa vie d'obéissance à cette loi, loi d'amour, loi de bonté, de miséricorde, était possible pour tous les hommes qui voulaient suivre son exemple et se servir des mêmes moyens dont il s'est servi lui-même. Je suis parfois très triste de voir que chez certains, pas tous, il n'y a pas ce rapport d'intimité, de proximité avec le Christ, ou cette conception de Christ qui est tout à fait différente de la Bible. Si je m'en tiens à Romains 8, 3, ce péché n'a plus de raison d'être en moi si je fais de Jésus-Christ mon maître, mon serviteur, en me servant des mêmes moyens que lui à utiliser sur cette terre. On va le voir, je ne suis pas le fils de Dieu, lui il était le fils de Dieu, mais ce n'est pas un obstacle. Bien entendu, de cette manière, nous pouvons dire et affirmer que le péché a été glorieusement vaincu, définitivement condamné, et la sainteté a été réalisée dans la chair humaine. Oh, peut-être trop pour certains. La perfection chrétienne n'est pas un idéal irréaliste. Quand Jésus dit à ses disciples « Soyez saints car je suis saint », il n'est pas en train de dire à ses disciples de poursuivre un mirage qu'il aurait proposé. Car lui, même dans une chair comme la mienne, il a réalisé cette vie de sainteté. Alors confesser Jésus-Christ venu en chair, qu'est-ce que ça veut dire? Que Christ a vaincu pour prouver que chaque croyant peut lui aussi vaincre la puissance du péché, bien entendu. Et Christ a vaincu au prix de lutte. Il a souffert, nous le savons, il a employé les armes de la foi et aussi les armes de la prière. Il ne suffit pas de croire théoriquement à l'incarnation de Jésus-Christ, il faut croire à l'application pratique de cette incarnation dans ma vie. De ce fait, ma sanctification est en marche. C'est ça, chers amis, chers auditeurs, la vraie pierre de touche du christianisme. Il faut le dire. Cette incarnation doit influencer tous les actes de ma vie, du petit jusqu'au plus grand. Et au fond, plutôt que de dire que ferait Jésus à ma place, disons plutôt qu'a-t-il fait déjà à ma place. Oui, parce qu'il a été tenté en toute chose, on l'a vu tout à l'heure. Et par la foi et la prière, il n'a jamais succombé à la tentation. Il n'a jamais péché. Et aujourd'hui, ce soir, pour cette semaine de prière, Jésus nous dit, mais prends courage, hein. Toi, auditeur, auditrice, de je ne sais où dans le monde francophone, prends courage. Moi, j'ai vaincu, tu peux vaincre. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Si seulement, encore une fois, tu veux te servir des armes dont moi je me suis servi. La prière, la soumission, l'obéissance volontaire, avec l'amour, sans recherche d'intérêt personnel, eh bien oui, voilà, Et cette vie sainte que j'ai vécue, je peux te la transmettre. Alors ce soir, qui est Jésus pour vous? Est-ce toujours juste un sauveur venu sur une terre, accomplir une mission et hop, rentrer à la maison après? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un de proche, de très concret? À vous de répondre. Mais la Bible est claire, nous savons qui est Christ et ce qu'il a fait. Alors Jésus-Christ pouvait-il pécher? Ce n'est pas une question farfelue. C'est une question plutôt qui vaut la peine d'être examinée. Les pharisiens d'ailleurs étaient convaincus que Jésus était un pécheur. Donc c'est pas étonnant, on peut quand même se la poser. Dans Jean 9, ils font comprendre que puisque Jésus n'observe pas le sabbat comme il faut, bon, Jésus est un pécheur. Jésus leur répond, mais qui de vous me convaincra de pécher? C'est Jean 8. Et puis Pierre dira plus tard, lui qui n'a jamais commis de péché, 1 Pierre 2. Alors au fond, qu'est-ce que le péché? Écoutez, nous avons une réponse toute faite dans la Bible, c'est la transgression de la loi. Même simple à retenir, 1 Jean 3, c'est la transgression de la loi. Paul en dit la même chose, il dit qu'il n'a connu le péché que par la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 7, 7 ou Romains 3, 20. Mais pour ne pas pécher, chers amis, chers auditeurs, il ne suffit pas d'observer la loi à la lettre. Il faut encore observer l'esprit de la loi. Et à la lumière de ce que nous dit la Bible, le péché n'existe pas seulement dans l'acte, il existe aussi dans la pensée, dans l'intention. Et c'est là que du coup, nous nous retrouvons dans une position inconfortable. Parce que si déjà dans ma tête, dans ma pensée, je pense à quelque chose de répréhensible vis-à-vis de Dieu, je suis déjà en train de commettre le péché. C'est comme si j'avais commis le péché, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, a parfaitement observé la loi, tant sur le plan de la lettre que sur le plan de son esprit. Oui, ça c'est le Jésus de la Bible. Un Jésus secoué par des tentations. Un Jésus soumis à la loi, sa propre loi. Il fallait bien quelque chose pour le qualifier, pour venir sur cet terme représenté. Est-ce que cette qualification ne viendrait pas de la même chair que moi? Oui, bien sûr. C'est ça qu'il a qualifié pour me représenter sur cette terre et maintenant au ciel. Bien sûr, Christ s'est rendu obéissant à la loi de son Père, sa propre loi, nous le savons dans Philippiens 2, jusqu'à la mort de la croix. Bien sûr, Jésus a vécu dans des conditions identiques à la mienne. Et il a subi les mêmes tentations et il n'a pas péché. Alors vous me comprendrez, quand je dis même tentation, Jésus n'a jamais été tenté de rouler à 150 km/h sur une autoroute avec une voiture. Les autoroutes et les voitures n'existaient pas. Jésus n'a jamais été tenté de manger du Nutella, ça n'existait pas à son époque. Mais au-delà de ces petits détails de tentation, les vraies, les profondes, les authentiques, celles qui agitent un homme, une femme, il les a succombées. Pardon, il les a éprouvées, ce n'est pas un lapsus révélateur. Et il n'a pas péché. C'est en cela aussi qu'il est un exemple. Alors certains vont dire, oui, tu sais, ce soir j'ai entendu des choses que Jésus ne pouvait pas pécher parce qu'il était divin, fils de Dieu. Un fils de Dieu, ça pêche pas. Bien sûr, tout le monde le sait, hein, n'est-ce pas? C'est dans tous les journaux. Et puis, d'autres vont dire, mais de toute façon, il pouvait pécher parce qu'il était comme nous. Ceux qui disent que Jésus-Christ ne pouvait pas pécher parce qu'il était divin, c'est vraiment tordre l'écriture. C'est d'ailleurs nier l'écriture que d'avancer cet argument. Pourquoi Jésus se serait-il incarné s'il lui avait été impossible de pécher? Je vous pose cette question. Quel était alors le sens de ces tentations? Croyez-vous que le diable aurait perdu son temps lors des tentations, notamment dans le désert, s'il avait su que Jésus ne pouvait pas succomber à la tentation? S'il ne pouvait pas pécher, que penser alors des luttes dont la Bible relate, ces luttes que Christ a menées contre Satan? C'est Hollywood alors, c'était tout ça du cinéma. C'est un film, c'est une comédie musicale, c'est une pièce de théâtre. Mais ce Jésus-Christ, qui est-il pour vous? Comment Jésus peut-il compatir à vos faiblesses et à vous et à vos iniquités s'il n'avait jamais couru le risque de succomber à aucune tentation? Comment voulez-vous ressentir Christ dans votre vie si c'est un étranger? Compliqué, n'est-ce pas? Le Christ avait en lui la divinité, nous le savons, unie à son humanité. C'est étrange pour nous. Nous n'arrivons pas à comprendre deux natures en une. Cette union de la divinité et de l'humanité en Christ se retrouve d'ailleurs dans de nombreux récits, notamment d'une écrivain adventiste, Ellen White. Mais posons-nous une ultime question à l'approche de la fin de cet entretien. La divinité de Jésus-Christ lui a-t-elle été de quelque secours pour vaincre la tentation, toutes les tentations, et triompher du mal? Oui, est-ce que sa divinité qu'il avait en lui, quand même, l'a aidé? Ah, les gens pourraient dire, oui, quand même, je pense. Oui, je pense que ça a dû l'aider, parce que sinon ça aurait été trop dur pour lui. En fin de compte, s'est-il servi de son côté divin pour surmonter les épreuves, pour les vaincre et pour ne pas chuter? Remarquez qu'il y a un élément commun aux trois tentations dans le désert. Elles portent toutes sur l'emploi que Jésus pouvait faire de son pouvoir exceptionnel. Bien sûr, des pierres en pain, jette-toi en bas, si tu te prosternes, tu m'adores. Toutes ces luttes se rattachent à une seule et même tentation, l'abus que Jésus-Christ aurait pu faire de son pouvoir divin. Le problème de notre Sauveur a été celui de la maîtrise de lui-même. Et quand nous parlons que nous, chrétiens, nous devons avoir la maîtrise de nous-mêmes en toutes circonstances, on entend dire « Non, tu comprends, nous sommes charnels, nous sommes des êtres humains dotés de sentiments. » Oui, mais ça peut durer des heures comme ça, ces arguments fallacieux. Jésus-Christ, lui, aurait pu abuser de son pouvoir divin pour surmonter toutes les tentations, il ne l'a pas fait. Et le problème a été pour lui la maîtrise de lui-même. Je vais vous dire quelque chose, la merveille du caractère de Jésus ne réside pas seulement dans ce qu'il a fait, mais encore dans ce qu'il s'est abstenu de faire. Devant le récit de sa vie que me relate la Bible, chers amis, il n'est plus permis de douter qu'il a durant toute sa vie résisté intérieurement au désir d'user de sa puissance pour lui-même. Qui est Jésus pour vous ce soir dans votre vie? L'étranger? Ce sauveur venu accomplir juste une mission et rentrer chez lui? Ou beaucoup plus que ça? Le mystère pour conclure de l'évangile, chers amis, c'est Christ en nous. Ce très beau texte de Colossiens 1, verset 27. Et le but de Christ est de présenter un homme, une femme à la fin des temps, quelqu'un qui soit parfait, mais en lui, pour qu'il puisse présenter cette personne à son Père et dire non seulement « Père, cet homme, cette femme a cru en moi, elle a accepté ce que j'ai fait à la croix pour lui et pour elle, mais elle a non seulement compris que je pouvais agir dans sa vie personnelle, et elle a accepté que je fasse ce travail. Oh, j'ai rencontré beaucoup de résistance, mais je suis rompu aux difficultés. Tu le sais, Père. Donc, je te la présente parce qu'elle s'est laissée faire et au bout de tant d'années, voilà, je peux te la présenter. Son esprit, c'est mon esprit. Son caractère, c'est mon caractère. Ce qu'elle pense, c'est ce que je pense. La direction qu'elle prend, c'est la direction que j'ai pris. Voilà, Père. Voilà un produit fini. Voilà un bijou que j'ai taillé. Voilà un fruit que j'ai émondé. Je suis le potier, Père. Tu ne l'as pas oublié. Et le Père de répondre, oui, effectivement, je le sais, mon fils. Voilà, chers amis, qui est le Jésus que vous aimez, que vous louez, que vous adorez? Un Jésus proche, un étranger? Telle est la question, en tout cas, pour ce soir. Il faut cesser de résister à cet appel à la transformation. Pour ceux qui sont chrétiens et qui m'écoutent, nous savons que le baptême c'est une chose, mais que la course chrétienne c'en est une autre. Et pour participer à cette nature divine dont parle l'apôtre Pierre en 2 Pierre 1, il faut effectivement, eh bien, fuir un monde qui nous propose une ruine, une perte. Que Dieu nous garde dans cet état d'esprit, celui de Jésus-Christ. Alors ce soir, qui est Jésus-Christ pour vous? Un étranger? Juste un sauveur? Ou beaucoup plus que ça? Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Pour Christophe, merci d'avoir pris de ton temps pour nous présenter ce si beau message de l'amour de Jésus.
Oui. Merci, sœur Marlène.
Donc, bon repos. et à oui, demain merci. Soir pour une nouvelle étude.
Absolument, que Dieu vous garde.
Merci, et tu vas prier avant de terminer, s'il te plaît.
D'accord. Oui, bon Père, nous voulons ce soir plus que reconnaître qui tu es. Nous voulons enfin que tu nous débarrasses de tous les préjugés que nous avons sur l'Évangile, que nous avons sur toi. Et enfin reconnaître que tu as été un frère pour nous. Oui, un sauveur, surtout un sauveur. Mais il fallait que tu sois un frère, le frère de la race humaine, le frère de celui qui vient non pas juste représenter la race humaine, mais participer à cette race humaine, c'est-à-dire venir dans une chair comme la mienne. Oui, Seigneur, j'espère que nous pouvons prendre conscience, enfin, après des décennies de christianisme, des centaines d'années, eh bien que tu es vraiment celui qui est le plus proche de l'homme. Et aucune autre religion du monde ne peut présenter un sauveur aussi parfait, qui sauve parfaitement et qui s'est tellement identifié à la race humaine. C'est en cela, Seigneur, que tu es supérieur à tous ces autres dieux qui ont existé depuis le début de l'humanité. Tu es unique, Père, et Jésus-Christ, nous voulons effectivement continuer de contempler qui tu es, de chercher à comprendre qui tu es, à sonder cet amour. Et nous savons que dès l'instant que nous porterons nos regards sur toi, tout de suite, tu viendras nous faire comprendre jusqu'où tu es allé. Oh, puissions-nous continuer de ressentir cet amour, Christ. Contempler ce que tu as fait, ton sacrifice, et lever les yeux en haut, car tu continues d'agir pour la race humaine, pour chaque homme, chaque femme qui t'ont accepté. C'est ma prière ce soir au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Amen.
À chaque frère et sœur, bonsoir et à demain, 21h du volant. Merci une fois de plus au frère Mon Désir. Que Dieu garde chacun de vous. À demain soir. Au revoir.
Au revoir.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous disons merci à Dieu pour cette première partie de la semaine de prière. Et nous donnons gloire à l'Éternel notre Dieu parce qu'il nous donne l'opportunité d'entendre ce premier message. Donc nous vous donnons rendez-vous à demain si Dieu le veut pour la nouvelle partie. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Au revoir.
Amen. Au revoir.